Chapitre 11. Sur site. Il s'autorisa finalement 3 heures de sommeil dans le bunker sans fenêtre où l'équipe avancée avait établi le poste de commandement. Il avait rencontré le reste des employés sur site. Ramirez était un peu angoissé, toujours en mode hacker. Il se reposait sur lui et sur Jaylene Slide, à bord de la plateforme maritime, pour surveiller le cyberespace autour du secteur où se trouvaient les banques de données ultra protégées de Maas Biolab. Si Maas les repérait, au dernier moment, il pourrait peut-être les prévenir. Il était aussi chargé de relayer les données médicales de l'opération à la plateforme, une procédure complexe si l'on voulait qu'elle échappe à Maas. La ligne qui partait du site était reliée à une cabine téléphonique au milieu de nulle part. Au-delà de cette cabine, Jaylene et lui se retrouvaient seuls dans la matrice. S'ils échouaient, Maas pourrait remonter leur piste et les localiser. Puis, il y avait Nathan, le réparateur dont le véritable travail consistait à surveiller l'équipement dans le bunker. Si une partie de leur système tombait en panne, ils pourraient peut-être réparer. Nathan sortait du même moule qu'Oki, et qu'un millier d'autres avec qui Turner avait travaillé au fil des ans, des techniciens sans attache, qui aimaient le frisson et l'argent, et qui avaient prouvé qu'ils savaient se taire. Les autres, Campton, Teddy, Costa et Davis, n'étaient que des mercenaires spécialisés dans la sécurité et bien payés. Le genre d'homme que l'on engageait pour ce type de mission. Il avait pris bien soin d'interroger Sutcliffe sur les dispositions prévues pour l'évacuation afin de leur transmettre. Il leur avait alors expliqué où atterriraient les hélicos, l'ordre de ramassage et le lieu et le jour précis où ils recevraient leur salaire. Puis, il leur avait dit de le laisser seul dans le bunker et avait ordonné à Weber de le réveiller dans 3 heures. L'endroit devait avoir été une station de pompage ou un poste électrique. Les bouts de tubes plastiques qui dépassaient des murs, tuyaux d'alimentation ou d'évacuation, semblait n'avoir jamais été relié à quoi que ce soit. Le plafond, simple plaque de béton armé, était trop bas pour que Turner puisse tenir debout. Et l'odeur sèche de poussière ne s'avérait pas tout à fait désagréable. L'équipe avait balayé l'endroit avant d'y installer les tables et l'équipement. Mais il restait par terre quelques lambeaux jaunis de journaux qui s'effritaient lorsqu'il les touchait. Il distingua quelques lettres, parfois un mot entier. Toutes les tables pliantes en métal avaient été collées le long d'un mur, et formait un L sur chaque bras duquel était posé du matériel de communication ultra sophistiqué. Le meilleur, se dit-il, qu'Osaka avait pu se procurer. Il longea, voûté et avec précaution, chaque table, et tapota chaque interface, chaque boîte noire au passage. Il y avait un émetteur-récepteur à bande latérale modifié pour des transmissions par salve. Ce serait leur moyen de communication si Ramirez et Jaylene rataient le transfert de données. Les salves étaient des fictions techniques très élaborées, préenregistrées et encodées par les cryptographes d'Osaka. Leur contenu importait peu, mais la séquence dans laquelle elles étaient envoyées transmettait des messages simples. Une série BCA informerait Osaka de l'arrivée de Mitchell. FD indiquerait son départ du site, tandis que FG annoncerait sa mort et la fin concomitante de l'opération. Turner tapota de nouveau sur l'émetteur-récepteur en se renfrognant. Les dispositions prises par Sutcliffe ne lui convenaient pas. Si l'extraction était découverte, il risquait de ne pas parvenir à s'échapper, et Weber lui avait confié qu'en cas de problème, on lui avait ordonné d'utiliser une roquette anti-char sur les médecins, dans leur salle d'opération. « Ils sont au courant », avait-elle expliqué, « et ils sont payés pour ça, j'imagine. » Les autres dépendaient des hélicoptères qui attendaient près de Tucson. Turner se disait que Maas, une fois alerté, pourrait les descendre facilement à leur arrivée. Lorsqu'il s'en était ouvert à Sutcliffe, l'Australien avait haussé les épaules. « Je n'aurais jamais monté l'opération ainsi si j'avais eu le choix, mon pote. » « Mais on nous a tous prévenus au dernier moment, pas vrai ?» Près de l'émetteur se trouvait un biomoniteur Sony complexe, directement relié à la nacelle de chirurgie et hébergeant le dossier médical contenu dans le fichier biologiciel de Mitchell. Les médecins, lorsque viendrait leur tour, auraient accès aux antécédents du transfuge simultanément. Les opérations qu'ils effectuaient dans la nacelle seraient renvoyées au Sony et rassemblées, afin que Ramirez les protège et les envoie dans le cyberespace, où Jaylene Slide l'accompagnerait depuis son siège sur la plateforme. Si tout se passait sans encombre, la mise à jour médicale serait déjà chez Osaka, à Mexico, lorsque Turner le ramènerait dans l'avion. Turner n'avait jamais rien vu de tel que le Sony, mais il supposait que le Hollandais possédait un équipement similaire dans sa clinique de Singapour. À cette idée, Il porta sa main contre sa poitrine nue, où il suivit d'un doigt, sans réfléchir, une cicatrice évanouie. Le matériel de cyberespace était posé sur la deuxième table. Une bécane identique à celle qu'il avait vue sur la plateforme, un prototype Maas Neotech. Configuration standard, mais... Conroy avait précisé qu'elle avait été conçue à partir des nouvelles biopuces. Un morceau de plastique rose pâle de la taille d'un poing écrasé trônait sur le dessus de l'interface. Quelqu'un, Ramirez peut-être, y avait creusé deux trous pour des yeux et un arc de cercle sommaire, formant un sourire idiot. Deux câbles, un bleu et l'autre jaune, partaient de cette partie rose pour rejoindre un des tubes noirs et béants qui dépassaient du mur derrière l'équipement. Encore une tâche qu'aurait à accomplir Weber en cas de menace d'envahissement du site. Turner observa les câbles en fronçant les sourcils. Un explosif de cette taille, dans ce petit espace clos, entraînerait la mort de tous ceux qui se trouvaient dans le bunker. Les épaules douloureuses et l'arrière de la tête frottant contre le plafond de béton rugueux, il poursuivit son inspection. Le reste de la table était occupé par les périphériques de l'interface, une série de boîtes noires positionnées avec une précision maladive. Il soupçonnait que l'on avait placé chaque unité à une distance millimétrée de sa voisine, sur un alignement parfait. Ramirez avait dû les installer en personne, et Turner était convaincu que s'il en touchait une, qu'il la déplaçait d'un millimètre. Le hacker s'en apercevrait. Il avait déjà croisé cette obsession du détail chez certains cow-boys du cyberespace. Et cela ne lui indiquait rien sur Ramirez. Pour d'autres plongeurs terrifiés par le rangement, c'était l'inverse. Leur équipement, recouvert d'autocollants de dés et de crânes hurlants, se perdait dans un fouillis d'objets et de câbles. Cela ne voulait rien dire, songea-t-il. Si Ramirez n'était pas bon, ils seraient bientôt tous morts. À l'autre bout de la table se trouvaient cinq émetteurs-récepteurs Telefunken dotés d'écouteurs et de micro-cravates auto-adhésifs, encore emballés individuellement dans du papier à bulles. Pendant la phase cruciale du transfert, qui selon Turner s'étendrait sur les 20 minutes précédant et suivant l'arrivée de Mitchell, Ramirez, Sutcliffe, Weber, Lynch et lui seraient en contact, même s'ils devraient utiliser les émetteurs-récepteurs avec la plus grande parcimonie. Derrière les Telefunken, un carton en plastique anonyme contenait 20 chauffe-mains à catalyse suédois, rectangle lisse et plat d'acier inoxydable, chacun dans son propre petit sachet de pilou rouge Noël, fermé par des ficelles. « T'es vraiment malin, » dit-il au carton. « J'aurais dû y penser. » Il dormit sur un matelas de camping en mousse ondulée sur le sol du poste de commandement, son parka comme couverture. Conroy avait dit vrai à propos des nuits dans le désert. Mais le béton semblait conserver la chaleur de la journée. Il garda ses vêtements et ses chaussures. Weber lui avait conseillé de les secouer chaque fois qu'il s'habillait. « Les scorpions », avait-elle expliqué. « Ils aiment la sueur et l'humidité. » Il retira le Smith & Wesson du holster en nylon avant de s'allonger, le posant doucement près de la mousse. Il laissa deux lanternes à pile allumées et ferma les yeux. Puis glissa dans une mer peu profonde de rêves, où défilaient des images, fragments du dossier de Mitchell mêlés à des épisodes de sa propre vie. Mitchell et lui, à bord d'un bus qui traversait un déluge de morceaux de verre pour entrer dans le hall d'un lobby de Marrakech. Le scientifique poussait un cri enthousiaste en appuyant sur un bouton qui faisait exploser les deux dizaines de bidons de cyanure collés au flanc du véhicule. Et Hockey était là aussi, lui proposant une bouteille de whisky et de la cocaïne jaune péruvienne sur un miroir rond cerné de plastique qu'il avait vu pour la dernière fois dans le sac à main d'Allison. Il crut avoir repéré la femme quelque part derrière les vitres du bus, en train de s'étouffer dans les vapeurs de gaz. Et il tenta de dire à Hockey de la faire sortir. Mais le verre était couvert d'hologrammes de saints mexicains, de cartes postales de la Vierge, et Hockey tenait en l'air quelque chose d'arrondi et lisse. Un globe de cristal rose contenant une araignée vif argent. Mais Mitchell riait, les dents ensanglantées, et tendait sa paume ouverte pour proposer le biologiciel gris à Turner. Il vit que le dossier était un cerveau d'un rose tirant sur le gris et vivant sous une membrane transparente humide, battant doucement dans la main de Mitchell. Puis il trébucha sur un haut fond de rêve et se blottit dans une nuit sans la moindre étoile. Weber le réveilla. Ses traits sévères encadrés par l'ouverture carrée de la porte ses épaules sous l'épaisse couverture militaire accrochée au-dessus de l'entrée. Les 3 heures sont écoulées. Les médecins sont debout si vous voulez leur parler. Elle se retira, ses bottes crissant sur le gravier. Les médecins d'Osaka attendaient près de la salle de neurochirurgie autonome. Sous la lueur de l'aube du désert, on aurait dit qu'ils émergeaient tout juste d'une sorte de téléporteur dans leurs vêtements Ginza décontractés, froissés selon la dernière mode. L'un des hommes portait un gilet mexicain trop grand et tricoté à la main, le genre de veste à ceinture que Turner avait vu sur des touristes à Mexico. Les deux autres avaient revêtu des blousons de ski isothermes, sans doute coûteux, pour se protéger contre le froid du désert. Les hommes mesuraient une tête de moins que la coréenne, une femme mince au visage marqué par des rides anciennes et à la collerette aviaire de cheveux teints en rouge, qui rappela à Turner un rapace. Conroy lui avait dit que les deux hommes appartenaient à l'entreprise. Il ne fut pas étonné. Seule la femme paraissait différente, avec cette façon de se tenir sortie tout droit du monde de Turner. Il s'agissait d'une hors-la-loi, d'une médecin clandestine. Elle aurait été tout à fait à sa place avec le Hollandais, songea-t-il. « Je m'appelle Turner, c'est moi qui commande ici. »« Vous n'avez pas à connaître nos noms, » dit la femme, tandis que les deux hommes s'inclinaient de façon automatique. Ils échangèrent un regard, observèrent Turner, puis revinrent sur la coréenne. « Non, » convint Turner, « ce n'est pas nécessaire. » Pourquoi n'avons-nous toujours pas accès aux antécédents médicaux du patient ? Demanda la coréenne. Pour des raisons de sécurité, affirma Turner, une réponse quasi réflexe. En fait, il ne comprenait pas pourquoi on les empêchait d'étudier le dossier de Mitchell. La femme haussa les épaules et se détourna, le visage caché par le col relevé de son blouson isotherme. Vous voulez inspecter la salle d'opération ? Demanda l'homme à l'épaisse veste en laine, l'air poli et attentif, un parfait masque d'employé. « Non, » répondit Turner. « Nous vous conduirons sur le parking 20 minutes avant son arrivée. Nous retirerons les roues et le caleron avec des criques. L'évacuation sera coupée. Je vous veux complètement opérationnel 5 minutes après cette installation. » « Aucun problème, » dit l'autre homme en souriant. « Maintenant, vous allez me décrire ce que vous allez lui faire là-dedans. Et en quoi ça va l'affecter ? Vous l'ignorez ? Demanda la femme d'un ton sec en se retournant vers lui. J'ai dit que je voulais que vous me l'expliquiez. Nous allons le scanner pour voir s'il possède des implants potentiellement mortels, dit l'homme au gilet. Des explosifs intracrâniens, ce genre de truc. M'étonnerait que nous trouvions des choses aussi rudimentaires, dit l'autre homme. Mais oui, nous allons partir en chasse du moindre équipement mortel. En même temps, nous effectuerons une analyse de sang poussé. D'après ce que nous avons compris, ces employeurs actuels sont dans les systèmes biochimiques ultra sophistiqués. Le plus gros danger vient sans doute de là. La dernière mode est d'équiper les cadres importants de pompes à insuline modifiées sous la peau. Intervint son collègue. Le système du sujet peut ainsi être rendu dépendant à certains analogues d'enzymes synthétiques. Si la pompe n'est pas rechargée à intervalles réguliers, l'éloignement de la source, en l'occurrence l'employeur, peut causer des dégâts. Nous sommes prêts à cette éventualité également, précisa l'autre. Aucun de vous deux n'est le moins du monde préparé à s'occuper de ce qui nous attend, selon moi, dit la médecin clandestine d'une voix aussi froide que le vent qui soufflait désormais de l'est. Turner entendit du sable siffler contre la plaque d'acier rouillée au-dessus d'eux. Vous, lui dit Turner, venez avec moi. Il fit demi-tour sans un regard en arrière et s'éloigna. Il y avait une possibilité qu'elle ne lui obéisse pas, ce qui lui ferait perdre la face vis-à-vis des deux autres. Mais cela lui paraissait la chose à faire. À 10 mètres de la nacelle chirurgicale, il s'arrêta. Il entendit les pas de la femme dans le gravier. « Que savez-vous » demanda-t-il sans se retourner. « Sans doute pas grand-chose de plus que vous, ou peut-être davantage. Plus que vos collègues, visiblement. Ils sont extrêmement doués, mais... ce sont aussi des serviteurs. Et pas vous. Vous non plus, mercenaire. J'ai été débauché d'une des meilleures cliniques clandestines de Chiba pour cette opération. On m'a confié beaucoup de matériel à étudier afin de préparer ma rencontre avec cet illustre patient. Les cliniques illégales de Chiba sont à la pointe de la médecine. Même Osaka n'aurait pu imaginer que mon poste dans un tel établissement me permettrait de deviner ce que l'on a implanté dans la tête de ce transfuge. On essaie toujours de détourner les choses de leur fonction première dans la rue, Monsieur Turner. J'ai déjà été engagé plusieurs fois pour essayer de retirer ces nouveaux implants. Certains biocircuits avancés de Maas se sont retrouvés sur le marché. Ces tentatives de les implanter en sont la suite logique. Je soupçonne Maas de les faire fuiter délibérément.
Expliquez-moi de quoi il s'agit.
Je ne pense pas pouvoir, dit-elle avec une étrange pointe de résignation dans la voix. Je vous ai dit que je l'avais vu. Je n'ai pas dit que je le comprenais. Elle effleura du bout des doigts la peau près de sa prise crânienne. Ce truc n'est rien comparé à des implants de biopuce, l'équivalent d'un bâton face à une prothèse myoélectrique. Mais ça risque de lui coûter la vie. Oh non, dit-elle en retirant sa main. Pas la sienne. Puis il l'entendit repartir vers sa salle d'opération. Un coursier envoyé par Conroy apporta le logiciel qui permettrait à Turner de piloter le jet et de conduire Mitchell jusqu'aux installations d'Osaka, à Mexico. Il s'agissait d'un homme au regard fou, tanné par le soleil que Lynch appela Harry. Une apparition musclée, arrivant de la direction de Tucson, sur un vélo décapé par le sable, aux pneus presque lisses et au guidon recouvert d'une longueur de cuir couleur os jauni. Lynch lui fit traverser le parking. Le coursier chantait. Un bruit étrange dans le silence requis sur le site. Et sa chanson, si l'on pouvait la qualifier ainsi, ressemblait à une radio sautant d'une station à l'autre, hurlements de gospel remplacés par divers extraits de tubes pop internationaux des 20 dernières années. Harry avait passé son vélo sur une de ses épaules brûlées et décharnées. « Harry vous a apporté quelque chose de Tucson, » dit Lynch. « Vous vous connaissez ?» demanda Turner en le regardant. « Vous avez un ami commun, peut-être »«
Qu'est-ce que vous insinuez ?»
Turner soutint son regard. Vous savez comment il s'appelle.
Parce qu'il vient de me le dire, Turner. Je m'appelle Harry, dit l'homme cramé.
Il jeta le vélo dans des broussailles. Il sourit d'un air absent et dévoila des dents abîmées et de travers. Sur son torse nu, recouvert d'une couche de sueur et de poussière, pendaient des chaînes d'acier supportant des morceaux de cuir, de cornes et de fourrures d'animaux, des cartouches en cuivre, des pièces de monnaie usées et illisibles, ainsi qu'une petite bourse de doux cuir marron. Turner détailla cet assortiment d'objets alignés sur la poitrine décharnée et tendit la main pour retourner un morceau de tendon tordu accroché à une corde tressée. « Qu'est-ce que c'est que ce truc, Harry ?»«
Une bite de raton laveur, » répondit-il.
« Ils ont des os dans la queue, c'est pas connu, ça. »«
Vous avez déjà rencontré mon pote Lynch, Harry ?»
Harry plissa les yeux.
« Il avait les mots de passe, » expliqua Lynch.
Il y en a plusieurs classés selon les cas d'urgence. Il connaissait le plus élevé. Il m'a dit comment il s'appelait. Vous avez besoin de moi ou je peux retourner bosser ?
Allez-y, dit Turner. Une fois Lynch assez éloigné, Harry s'attaqua à la lanière qui tenait le petit sac de cuir.
Vous devriez y aller mollo avec lui, dit-il. Il est vraiment très bon. Je ne l'ai pas vu avant de me retrouver avec ce lance-fléchette sur la nuque.
Il ouvrit l'étui et y plongea délicatement une main.
« Dites à Conroy que je l'ai repéré. »«
Quoi ?»
fit Harry en sortant de son sac une feuille jaune, pliée et arrachée à un carnet de notes.
« Vous avez repéré qui ?»
Il l'attendit à Turner. Elle contenait quelque chose. « Lynch, c'est la taupe de Conroy sur le site, dites-lui. » Il déplia la feuille et en retira l'épais micro-logiciel militaire. Une note en lettres capitales bleues disait « Bonne chance, connard, à toutes dans le DF. »«
Vous voulez vraiment que je lui dise ça ?»«
Oui, c'est vous le chef. »«
Et comment ?»
dit Turner en froissant le papier et en le fourrant sous l'aisselle gauche d'Harry. Celui-ci sourit d'un air doux et ahuri, et l'intelligence qui avait affleuré en lui disparut de nouveau, comme une créature aquatique qui plongerait avec aisance dans une mer calme de stupidité caniculaire. Turner le regarda dans les yeux. Opale jaune fissurée où il ne vit que le soleil et la route abîmée. Une main aux phalanges manquantes vint gratter distraitement une barbe d'une semaine.
« Allez !» dit Turner.
Harry se retourna, releva son vélo des broussailles, le passa sur son épaule en grognant et repartit sur le parking dévasté. Son short kaki déchiré et trop grand battait contre ses jambes et sa collection de chaînes cliquetait doucement. Sutcliffe siffla depuis une élévation à 20 mètres de là, puis
leva un ruban d'arpenteur orange. Il était l'heure de commencer à dessiner la piste d'atterrissage de Mitchell. Il devrait faire vite, avant que le soleil ne soit trop haut, même s'il n'échapperait pas à la chaleur. « Donc, » dit Weber, « il arrive par les airs. » Elle cracha un liquide marron sur un cactus jauni. Elle avait la bouche pleine de tabac aprisé Copenhagen.
« C'est ça, »
confirma Turner. Il s'assit près d'elle sur un rebord d'argile couleur chamois. Il regardait Lynch et Nathan nettoyer la piste que Sutcliffe et lui avaient délimitée avec un ruban orange. Elle formait un rectangle de 4 mètres de large sur 20 de long. Lynch apporta un bout de poutre IPN rouillé jusqu'à la bande de plastique et le lâcha dessus. Quelque chose s'enfuit dans les broussailles lorsque la poutrelle frappa le béton.
« Ils sont capables de voir ce ruban s'ils le veulent, » dit Weber, en s'essuyant les lèvres d'un revers de main.
« Ils peuvent même lire les titres sur votre fax du matin. »«
Je sais, » dit Turner,
« mais s'ils ignorent que nous sommes déjà là, ça m'étonnerait qu'ils le fassent. »
« Et on ne le voit pas depuis la route. »
Il ajusta la casquette en nylon noir que Ramirez lui avait donnée, baissant la longue visière jusqu'à ce qu'elle touche ses lunettes de soleil.
« De toute façon, on n'enlève que les gros trucs, là. » Ce qui pourrait arracher une partie du train d'atterrissage. Depuis l'orbite, ça n'aura l'air de rien.
Non, convint Weber, son visage ridé impassible sous ses verres teintés. Turner sentait sa sueur de là où il était assis, âcre et bestial.
Vous faites quoi, Weber, quand vous n'êtes pas sur ce genre de truc?
Il l'observa.
Sans doute beaucoup plus de choses que vous, dit-elle. J'élève des chiens une partie du temps.
Elle sortit un couteau de sa botte et le frotta patiemment contre sa semelle, le retournant doucement à chaque passage, comme un barbier mexicain qui aiguiserait un rasoir.
« Et je pêche,
la truite.
Vous connaissez du monde au Nouveau-Mexique ?
Sans doute plus que vous, » dit-elle d'une voix égale. « J'ai l'impression que les gars comme vous et Sutcliffe, vous n'avez aucune attache.
C'est là que vous vivez, hein, Turner ?
Sur le site, aujourd'hui. Le jour où votre cible débarque, pas vrai ? Elle testa la lame contre la pulpe de son pouce, puis la rangea dans son fourreau.
« Mais vous avez quelqu'un, un homme à retrouver ?»«
Une femme, si vous tenez à le savoir, » dit-elle.
« Vous vous y connaissez en élevage de chiens ?»«
Non, » avoua-t-il.
« C'est bien ce qui me semblait. »
Elle le regarda en plissant les yeux.
« Nous avons une gosse aussi,
la nôtre. C'est elle qui l'a portée. »«
Épissage ADN ?»
Elle hocha la tête.
« C'est cher, » dit-il.
« En effet, je ne serais pas là s'il ne fallait pas rembourser. Mais elle est belle. »«
Votre femme ?»«
Notre fille. »